Vous écoutez
RMC.
RMC.
Soit tirent un peu la jambe ou sont complètement en pleine restructuration.
Tire la jambe, on met de côté s'il vous plaît.
4 occasions franches, 5 tirs au but, 14 centres. Enfin, ça va, ils n'ont pas non plus joué avec le reculoir.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Accompagné ce soir de Kevin Diaz et David Guzman pour débattre ensemble jusqu'à 22h avant de passer la balle à Karine Galli pour l'after jusqu'à minuit. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait tirer comme enseignement du trophée des champions hier pour la saison à venir pour le Racing Club de Lens, pour celle du Paris Saint-Germain. Des enseignements, on va essayer de... on verra ce que l'OL va tirer demain, parce que si Lyon veut retrouver la Ligue des Champions 6 ans après sa dernière participation, il va falloir éliminer le Fenerbahçe d'Istanbul en barrage. Match aller demain soir dans la capitale turque. Le retour mercredi prochain, mercredi 26 août. Alors une qualif, ce sera la Ligue des Champions, sinon la Ligue Europa est déjà assurée hein, pour l'OL, même si on imagine que ce que préfèrent les supporters et ce dont ont besoin, je parle sous votre contrôle, les finances du club, si on veut éviter, je sais pas, une vidange de dernière minute d'un effectif en vendant les joueurs au rabais. Alors, question simple pour vous, est-ce que vous êtes confiant pour Lyon avant cette double confrontation face au Fener?
Je sais pas si on peut être confiant, mais en tout cas, moi, je pense que Lyon peut très bien éliminer Fenerbahçe. La preuve, les Turcs ont perdu en championnat, même s'ils avaient fait tourner. C'est une équipe qui n'est pas imbattable. Hein. Ils ont des beaux noms, ils ont un bel effectif, ça c'est certain. Mais Lyon aussi, Lyon a montré quand même dans ce match retour qu'ils étaient largement au niveau pour participer à la Ligue des Champions.
Contre le Sparta, tu veux dire,
Sparta, ouais. Quand même, où tu perds à l'aller, t'es très très mal en gros dans ce match, même si tu rates un penalty, mais au retour ils ont quand même montré beaucoup de caractère, pas mal de qualité, ils ont mérité leur qualification. Maintenant ils sont pas favoris, donc c'est un rôle qui devrait leur convenir. Et tu sais que face à c'est Lille, je crois, qui avait éliminé Fenerbahçe de Mourinho il y a 2 ans pour le tour préliminaire. Donc je pense que si Lille l'a fait, l'Olympique Lyonnais, qui je pense a au moins un aussi bon effectif que ce Lille là, peut le faire.
Moi j'y crois. Moi tout simplement.
Ben voilà.
Moi tout simplement j'y crois, ouais. Parce que avec tout le respect que j'ai pour la ribambelle de noms qui constelle l'effectif du.
Alors tiens, justement, petite parenthèse, justement, oui. Mason Greenwood, Lukaku qui sont arrivés cet été, qui rejoignent des noms qu'on connaît, Talis Kahn, N'Golo Kanté, Guendouzi, Nathan Aké, Nelson Semedo entre autres.
Moriki. Non, c'est ouais. Vrai. Oui, non, mais
Milan. Et puis il y a toujours l'ambiance à Istanbul. Tu peux te retrouver mené 2-0 après 3 minutes.
Le fait est que ok, j'ai énormément de respect pour la carrière de tous les joueurs qui constellent l'effectif du Fenerbahçe. Fenerbahçe, je crois qu'ils n'ont pas fait les poules avec des champions depuis 2009. Ils n'ont pas été champions depuis 2014.
Ils ont éliminé Sturmgrass au troisième tour.
Depuis 2014, Beşiktaş a été champion 3 fois. Trabzonspor a été champion. Istanbul, Başakşehir a été champion. Donc ça ne présume en rien de ce qui va se passer. Mais je trouve que Fenerbahçe a des faiblesses. Là où Lyon est très fort, je ne suis pas forcément convaincu par le profil ultra offensif de Nelson Semedo, d'Archie Brown, avec des joueurs comme Fofana, comme Nouama, qui peuvent leur faire mal. Je suis pas non plus convaincu par le manque de mobilité de Skriniar et Nathan Aké. Je pense qu'Openda peut leur faire mal. Je suis pas non plus hyper convaincu par le double pivot N'Golo Kanté et Matteo Guendouzi, même si Guendouzi apparemment s'épanouit énormément là-bas. Je pense que un Taylor Morton, surtout Taylor Morton, qui a été étincelant au match retour contre le Sparta, et Corentin Tolisso à leur niveau du Sparta peuvent leur causer des problèmes. Et surtout, la piqûre de rappel, elle a déjà eu lieu pour Lyon
avec la défaite au match aller,
la défaite au Sparta Prague, la composition,
oui, alors c'est pas la même ambiance,
non, mais la composition, pense que la composition expérimentale, il y a dû avoir peut-être pas un recadrage mais une prise de conscience interne, et j'ose espérer que Paulo Fonseca aura retenu la leçon. Donc moi je pense que au niveau tactique, au niveau de l'effectif, au niveau de l'état d'esprit et du sérieux montré lors de la dernière confrontation, moi je suis confiant et je pense que Lyon peut regarder dans les yeux ce Fenerbahçe.
Eh ben, tu sais quoi, on va écouter Moussa Diakaté qui s'exprimait en conférence de presse, c'était il y a quelques minutes. Il nous parle, lui, de son sentiment avant cette rencontre.
sais qu'ils ont une très belle équipe, mais pas qu'offensivement. Je pense que sur toutes les lignes de leur équipe, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils ont une équipe juste monstrueuse. Donc nous, on va jouer avec nos armes. La manière dont on a joué la saison dernière ou durant toute cette préparation, on va essayer de les mettre en difficulté. Mais c'est sûr que nous, notamment les défenseurs, on devrait être très concentrés, très précis dans tout ce qu'on fait pour essayer de les mettre en difficulté. Mais défendre, c'est pas que les défenseurs. Non, c'est toute une équipe qui devra bien défendre face à ces excellents joueurs. C'est grand nom aussi en défense, au goal. Des joueurs qui ont gagné de nombreux trophées. Ils ont construit une très très belle équipe. Ce sera à nous de donner le maximum.
Voilà, beaucoup de respect. Alors c'est classique souvent avant une telle rencontre, mais bon, je vous trouve bien bien confiant, messieurs. Même non, si j'ai envie de croire au sens lyonnais, mais
il s'agit pas d'être confiant. Mais ils jouent pas contre le Real Madrid non plus. Fenerbahçe, c'est un bel effectif, comme l'a dit Niakate. C'est ils ont fait une belle équipe. Maintenant, c'est une équipe qui se découvre où il y a pas mal de nouveaux joueurs. Je le dis, c'est une équipe qui, même si elle était remaniée, a perdu en championnat. Là-bas, tu sais, ça va très vite. Hein, tu leur mets un but, le public peut un peu se retourner. À domicile, il y aura une ambiance exceptionnelle à Lyon. Donc moi je pense que ils ont leur chance. Ils sont pas favoris, comme je l'ai dit, mais ils ont leur chance. C'est du 55-45.
C'est exactement ce qu'on a dit. Moi, j'ai envie d'y croire. Avec tout le respect que j'ai pour les noms alignés par le Fener, vraiment, je vois pas pourquoi en fait on devrait avoir une différence exagérée envers cette équipe du Fenerbahçe. Même s'il y a des noms hyper attrayants, Talisca, moi c'est un joueur qui a fait une carrière, oui. Peut-être pas à la hauteur. Enfin, je pense que financièrement il s'y est retrouvé, mais il a qu'à fait une carrière pas forcément à la hauteur de son talent. Mason Greenwood, sur le plan footballistique, je pense que en Ligue 1 on le connaît depuis plusieurs années. Matteo Guendouzi, je pense que c'est encore un milieu de haut niveau. Arthur Koglou, moi que j'aimais déjà beaucoup à Benfica, que j'aime toujours beaucoup au Fener. Vraiment, c'est un effectif peut-être surchargé en talent à certains postes. Moretti, deuxième buteur de Ligue 1 l'année dernière avec Mallorca. Et là, ce serait potentiellement le troisième avant-centre d'une équipe qui joue à une pointe, qui vient de faire signer Romelu Lukaku.
Donc,
t'es
en train de me dire que...
Oui. Non, mais il y a des noms. Non, mais en fait, il y a des noms. Mais un amoncellement de noms ne fait pas forcément un collectif ultra performant, surtout début août. C'est tout ce que je dis.
Ouais, d'accord, mais sans manquer de respect à l'Olympique Lyonnais, on parle pas du PSG non plus, que ce soit de le vécu récent sur la scène européenne. On rappelle, ça fait 6 ans que l'OL a pas joué la Ligue des Champions.
Nelson Semedo, c'est quand même un joueur qui est en fin de carrière. Skriniar, on l'a vu au PSG. Oui, mais... C'est pas l'assurance de risque. N'Golo Kanté, on l'adore, c'est un excellent joueur, mais il est aussi en fin de carrière. Asensio, si c'était un crack, ça serait, hein, qu'il devait gagner un ballon d'or. Et Greenwood, on sait que ça peut être sur courant alternatif. C'est sûr qu'il faut pas le laisser dans la zone de décision tout seul. Mais Matteo Guendouzi, on l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus un des meilleurs milieux de l'histoire du football français.
Non, quasiment le joueur qui est au plus haut niveau chez eux. Je pense que Guendouzi pourrait jouer encore un très, 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 très bon
Tolisso.
Niveau.
Je préfère Tolisso. Par exemple,
bah, c'est pas vraiment le même profil. Il y a débat en effet. Mais bon, écoutez, on a quand même suffisamment payé pour voir. On parle souvent de traquenard, hein, c'est un poncif. Oui. Bon,
ça
va faire beaucoup de bruit, coup d'envoi.
À Lyon, d'accord. Mais à Lyon, peut-être qu'ils vont avoir des difficultés à l'extérieur. Faut pas prendre une rafale. Voilà, faut pas en prendre trois, c'est sûr. Mais après, à domicile, t'as Niakate qui est international sénégalais, t'as Griff qui est un bon joueur. Bon, t'as Maitland Nice qui a quand même joué en Première Ligue très longtemps. De l'autre côté, t'as Tolisso, le mec il est champion du monde, il a joué au Bayern. T'as Tesman qui est un jeune américain qui est quand même talentueux. Morton pareil pour un Anglais. Et après t'as Openda, Fofana et Nouama. Ça va quand même.
D'accord, je vous entends.
Qui peut se qualifier pour la Ligue des Champions. Je ne dis pas que si Tesman ne dit pas, c'est une catastrophe.
Tesman, je ne partage pas le.
Tesman,
c'est vraiment le maillon faible même du milieu.
C'est en face, c'est Talisca, ça va, c'est pas non plus.
Il joue avant-centre, Talisca.
Oui, je sais bien, mais je veux dire, tu me dis Talisca, il me fait pas rêver, moi, demain, comme avant-centre. Moi, je suis désolé, peut-être qu'il va mettre un doublé.
Non, mais c'est sa carrière, en fait, si tu veux, qu'il a joué à Guangzhou.
Je vois très bien Tesman jouer à Benfica un jour, pourquoi pas. Franchement. Non, moi je trouve pas que Tesman ce soit un mauvais joueur. Moi j'aime bien.
On ne sera pas d'accord sur Tanak Tesman. C'est pas très grave.
On va peut-être demander à Pierre de trancher qui a fait le 32-16 qu'on a accueilli dans l'after. Salut Pierre.
Salut les gars, merci de m'accueillir.
Merci d'avoir voulu participer à notre débat. Supporter lyonnais, j'imagine, si tu veux intervenir.
100%, abonné à l'OL.
Comment tu le sens, Fenerbahçe, ça va passer?
Je sais pas si ça va passer. Moi je pense que c'est vraiment 50-50. Je suis d'accord avec vos analyses. Moi, je trouve que Fenerbahçe, c'est plein d'individualités, mais c'est très rare dans le football quand un club achète beaucoup de joueurs que la mayonnaise, elle prenne rapidement. les équipes qui fonctionnent, c'est généralement quand il y a peu de changements, à l'image du PSG. Moi, je pense que la clé du match pour Lyon, c'est Lyon. On n'aura pas le droit à l'erreur de notre entraîneur de faire une compo catastrophique sur un match. On aura besoin de joueurs concernés parce que Lyon parle plus d'argent que de football. Donc Fofana, il est sur le départ. Soult, il est sur le départ. Tessman, ils sont... Enfin, les trois, par exemple, sont sur le départ. Mike Lorn-Niles aussi. Donc, est-ce que les joueurs sont concentrés sur la Ligue des Champions ou sur leur avenir personnel? J'en sais rien, j'ai pas la réponse, hein, c'est ce que je me dis.
Si on écoute David Tessman, il ira nulle part.
Non, mais oui.
Pour le coup, lui, ils veulent vraiment le sortir.
Mais est-ce que, oui, mais ça voilà. Est-ce que l'avenir de certains joueurs, alors Tessman mis à part, ne dépend pas aussi en partie du résultat de cette double confrontation? Est-ce que ce que je demandais en intro,
financièrement,
tu vas pas être obligé de vendre à Fofana,
de toute façon, si je devais chiffrer la différence entre l'Europa League et la Champions League financièrement, c'est le prix d'un Souch. Donc après, Souch, il est quoi qu'il arrive sur le départ, mais c'est une grosse vingtaine de millions d'euros. Donc oui, après, je pense que la manne financière supplémentaire sera beaucoup plus utilisée au désendettement et à la réduction du déficit d'exploitation que réinvesti sur le marché des transferts. Après, Malik Fofana, il y a aussi une question de fin de contrat. Je crois qu'il a 2 ans de contrat. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de le laisser courir la saison et après d'être en position de faiblesse? Il y a aussi cette question, en fait, qui va se poser. Mais le Fenerbahçe, après, il y a des gros noms, mais il n'y aura pas non plus par rapport à la saison dernière. C'est pas un effectif ultra chamboulé. Ils ont signé beaucoup de joueurs cet été, mais si tu regardes le 11 titulaire, il y a à part Mason Greenwood, il y aura pas énormément en fait de joueurs qui étaient. Je crois que c'est peut-être 2-3 nouveaux joueurs qui vont être alignés, mais je pense pas que Lukaku démarre. Je pense pas que Muriqi démarre. Certes, il y a un changement. Il y a eu un changement au poste de président, mais sinon c'est tout. Hein, donc
après, ils ont quand même perdu leur premier match en championnat, donc
ils ont fait tourner 3-4 joueurs.
Ils ont peut-être fait tourner 3-4 joueurs, mais enfin ils perdent contre Saint-Maur-le-Zitanos, l'équivalent, je crois, en équipe qui perd.
Ouais, c'est un peu ça. Donc,
petit clin d'œil pour Kevin, bien sûr. Mais les trêves de plaisanterie, moi je pense qu'en effet les deux équipes sont pas à 100%, parce que Lyon, on a beau se qualifier contre Prague, on a quand même pas, sur l'ensemble des deux matchs, été exceptionnel. On a aussi joué une équipe de Ligue 2. Donc moi je pense que les deux équipes sont en difficulté. J'ai entendu ce que tu as dit sur les transferts de Fenerbahçe, mais encore une fois, le problème c'est quand t'as plein de joueurs qui arrivent, ça remet en cause les titulaires, quoi. Même si sur le match Okeku n'a pas joué, l'avançant qui va être titulaire, il aura quand même du mal.
Il a mis 5 buts en 5 matchs, donc je pense qu'il n'a pas l'air très inquiet pour le coup.
On verra, mais enfin moi je m'attends en fait à... J'ai l'impression que c'est le moins mauvais des deux qui va se qualifier, quoi. Voilà, entre nous, je le vois comme ça, cette confrontation.
Moi, je suis un peu plus enjoué. Moi, j'ai vraiment envie de l'avoir. Je suis un peu plus enjoué. Je te trouve un peu dur, en fait. Alors, ça, je trouve que vous avez encore montré des lacunes au retour contre le Sparta de Prague. Mais moi, j'ai trouvé ça très cohérent en 4-3-3. J'ai beaucoup aimé certaines prestations individuelles. J'adore l'intégration d'Openda. Je le trouve très pertinent. Qu'apporte vraiment, c'est un vrai poison. Il apporte vraiment quelque chose. J'ai adoré le match de Morton. J'ai adoré le match de Niakate. Moi, je te trouve un peu dur, hein. Même un peu pessimiste.
En face, les gars, et la vedette en face, c'était Karabèche qui était 25e joueur de l'OL l'année dernière.
Moi, je suis pas sûr que ce soit la vedette, c'était Araslin qui vient d'être vendu.
Numéro 10 en tout cas qui a fait les 180 minutes, c'est Karabèche, hein.
Parce que Araslin vient d'être vendu, mais c'est pas le joueur qui m'a heurté la rétine, Karabèche.
Ils sont pas sortis, quoi. Bon. Pour une équipe qui veut jouer avec des champions, moi encore une fois, on verra si vous trouvez que Prague était fort. Moi, je trouve que Lyon, ils ont fait un match cohérent en retour, mais elle allait catastrophique. Donc, je parle de la moyenne de l'aller-retour qui était moyennasse. Et je trouve aussi que l'équipe, elle est très équilibrée. Mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que cette équipe qui a fait le match retour, est-ce qu'elle sera à 100% demain? Et je pense à Fofana, par exemple, je viens de le lire là sur un site connu de Mercato, comme quoi il serait mis d'accord cet après-midi avec la Roma. Donc, est-ce que quand tu te mets d'accord le lundi avec la Roma, tu fais un bon match l'après-midi, le lendemain avec l'OL? J'en sais rien, je vous pose la question, mais c'est ce qui m'inquiète. Si par contre on fait le même match qu'on a fait contre Prague au retour, je serais agréablement satisfait de mon équipe, mais je suis très inquiet des visages qu'on peut proposer en ce moment. Mais encore une fois, je fais confiance aux joueurs, à l'entraîneur, et je trouve que tout le monde travaille bien au club, si on se qualifie pas, bah, sportivement, après, je pense c'est pas que très si grave, c'est plus financièrement, quoi.
S'il y a une once de doute quant à la volonté, à l'implication de Fofana, t'as Duranville, de toute façon, qui est aussi une recrue importante de l'intersaison, qui sera prêt à prendre sa place. Franchement, le couloir offensif, c'est pas le poste, moi, qui m'inquiète le plus.
Le jeune belge qui est arrivé pour 5 millions d'euros. Tu parlais de l'entraîneur à l'instant, Pierre, Paulo Fonseca, qu'on va écouter en conférence de presse, c'était cet après-midi. Lyon qui s'est donné le droit d'y croire.
On a travaillé beaucoup pour être ici, pour avoir cette opportunité. Et je pense que pour nous, c'est une excellente opportunité. Avoir la possibilité d'entrer dans la Champions League, et si nous pouvons avoir la possibilité de gagner, sera historique pour le club. Aujourd'hui, nous sommes un club différent, avec plus de difficultés qu'en ce moment. Mais nous arrivons ici à regarder ce moment comme une excellente opportunité. Nous savons que sera difficile, mais nous sommes ici pour faire de tous pour avoir cette possibilité.
Voilà, l'enthousiasme de l'entraîneur de l'OL, en effet, bon, si on n'est pas content de jouer ce genre de rencontre, il faut changer de métier. Bon, je vous trouve relativement confiant et vous m'avez redonné...
C'est bien, c'est le but. Voilà.
Ah oui. Non, mais vous savez. Quand tu joues Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions, moi, pour
moi, c'est... Il y avait à 55-45 Fenerbahçe, ouais. Moi, je suis vraiment, vraiment à 50-50.
Toi, alors, t'es à 50-50. Toi, t'abuses.
Non, mais.
Bah, 50-50 quand même.
55-45. Bah, 55-45, c'est bah, pas comme si t'es à 70-30.
Mais attendez,
ils sont quand même pas
audacieux. À vous écouter, mais... on pense que Lyon est favori, même pour vous. Hein.
Non, moi, je rééquilibre.
Je rééquilibre.
Simon, s'il te plaît, j'ai dit que.
J'ai
dit que Lyon était outsider.
On peut pas dire. J'ai 55-45. J'ai l'impression que. Je suis à 50-50, on est qu'à 50-50.
Ces chiffres ne veulent rien dire.
C'est pas énorme.
C'est beaucoup quand même. 55-45. Si on est dans une entreprise, 55-45.
Non, mais c'est pas comme si.
C'est pas pareil.
Alors.
Pour un banquier, ça m'étonne. Ça m'étonne que tu dises que 50-50, c'est comme 55-45.
Non, ce que je veux dire, c'est que je suis surpris du fait.
Au comité directeur, là, je suis en majorité, tu le sais ou pas?
Non, tu es à 45, toi.
Mais non.
Bon, côté Lyon, t'es à 55.
55. Ouais, mais d'accord. Mais 55-45, c'est différent quand même.
Non, mais alors pour ne pas inquiéter les supporters lyonnais qui nous écoutent, j'en suis certain, j'étais pas ultra pessimiste avant Nice-Benfica. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc, j'ai réussi à rallier Kevin à ma cause sur le RC Lens, je suis assez content.
Ah oui, top 5, oui. Top 3, non.
Ça, c'est content.
Bon, Fenerbahçe Lyon, c'est demain à 21h. Le match retour, ce sera à Lyon, au Groupama Stadium, évidemment, le 26 août David, prochain. Oui, ah, bah, moi, j'ai compris qu'ils étaient favoris. Je remercie Pierre d'être passé dans Génération After. On lui souhaite une belle saison pour l'OL, à commencer par une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cette archive, à présent, qui ressort des tiroirs numériques. Nous sommes en décembre 2024. Et je vous laisse la savourer.
Ouais, quelle contre-attaque, Kevin, finalement, tu joues plus, mais le TPC, c'est sur ce.
Pour moi, il y a hors-jeu. Ah. Pour moi, il y a hors-jeu. En dessous d'une épaule.
C'est pour tous les séparés. C'est vrai qu'on vient de revoir l'image.
Mais
si t'as l'écran.
Mais en tout cas, la tête, elle est.
Non, j'ai pas d'écran, mais je surveille l'arbitre, surtout. Thomas Léonard, est-ce qu'il a mis le doigt à l'oreillette? Oui, il a mis le doigt à l'oreillette. Donc, il est en train de prévenir que le but est en train d'être vérifié. Mais la façon dont il parle avec notamment Petro, le défenseur stéphanois, les Toulousains sont venus se repositionner dans le rond central après avoir fêté le but d'Abouklal. Je peux pas intervenir là-dessus, Kevin, j'ai pas les images.
Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Okai. Et l'épaule, elle est en effet en avant. Bon.
Je pense que en tout cas, il y a vérification. Ouais, vérification pour l'instant, et on est à la 86e minute.
Claqué au sol.
Ouais. Mais la tête était, voilà, claquée, effectivement. On a l'impression quand même que l'Arsenal aurait pu faire un peu mieux. Il est sur la trajectoire. On reste, hein, parce que c'est important à 5 minutes de la fin. C'est toujours checké.
Assistance vidéo en cours. Le but va être accordé. 2-1 pour le Toulouse.
Oh, bah, franchement,
si lui arrive le hockey de Kevin Diaz.
Ah, franchement, sur l'image, j'étais certain qu'il y avait hors-jeu.
C'est 50-50 aussi, ça qui est évident.
Et d'ailleurs, tous les Stéphanois qui ont vu ce match, on a eu des messages les jours suivants, sont d'accord avec moi.
C'est étonnant, ça.
Tu nous disais que tu penses encore qu'il y avait.
Ah, je pense toujours.
Et en fait, tes doutes concernant l'Arsenal, parce qu'on a fait le.
Non, mais si. Demain, il y a Gilbert Bévois qui revient. Il t'expliquera que c'est pas parce que. Et à quel moment il a quitté le pied, le ballon. Il n'y a pas de puce dans le. Donc, ça reste un mec qui fait des lignes. Et le mec qui fait des lignes, à 1 mm près, il peut se tromper.
D'accord. OK.
Bon.
Voilà.
Rideau. En tout cas,
c'est la vie de l'after et on le maintiendra.
Pour les questions de montage, en tout cas, voilà.
Non, il était très bien le montage.
Preuve et que.
Très évocateur.
Preuve et que.
Bravo, Paul.
On a vu que cette séquence a été trafiquée, bien sûr.
Raccourci. Résumé. Bien et très bien résumé.
Il ne lâche rien, le Hawkeye de Kevin Diaz qui est d'ores et déjà légendaire. David Guzman qui accompagne Kevin. On est ensemble en direct jusqu'à 22h dans un instant affilé en Espagne. Parler un petit peu de ces recrutements du Barça et du Real. Est-ce que ça redonne du lustre à la Liga ? Est-ce qu'elle est redevenue le championnat le plus attractif de la planète ? Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes à peine.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
On est là tous les soirs de l'AD. Je suis accompagné ce soir par David Guzman et Kevin Diaz avant de céder la place à Karine Galli pour l'After jusqu'à minuit. C'est la semaine de reprise pour les différents championnats. La Ligue 1 qui reprend vendredi avec l'affiche entre l'OM et Strasbourg, vendredi 20h45 au Stade Vélodrome. Vous ne manquerez rien évidemment de cette première journée de championnat sur l'antenne de RMC. En Liga, on a repris ce week-end. Alors ça c'est étonnant, première journée est allée sur quasiment une semaine. Elle se conclura jeudi avec l'affiche entre le Barça et l'Atlético. La veille, le Real Madrid recevra la Real Sociedad. Barcelone, champion en titre, qui s'apprête, on attend l'officialisation, à recruter Rodri, le capitaine des champions du monde, alors que le Real a fait un gros recrutement durant l'été, il sera à nouveau entraîné. Kevin Diaz me regarde bizarrement parce qu'il sait que je vais parler de José Mourinho, du retour de José Mourinho sur le banc. L'Atlético de Madrid est toujours là. Romero, le finaliste du dernier mondial, a signé avec les Colchoneros, une équipe qui va bien coller au caractère du défenseur argentin. Alors, question, messieurs, alors que s'ouvre cette saison, est-ce que la Liga est redevenue le meilleur championnat du monde ? C'est peut-être un petit peu exagéré, mais est-ce qu'elle a retrouvé son lustre d'antan ?
Ah, oui, enfin, lustre d'antan, non, mais après, moi, je suis un peu influencé par le fait que j'ai regardé le documentaire Netflix sur Mourinho, et quand j'ai fini le troisième épisode, je me suis dit, allez, ça y est, j'avais tiré une croix sur le mou, et là, j'ai envie de le voir à la bagarre. J'ai envie de le voir maillocher, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner. Ça dépendra vraiment énormément du Real, parce que je pense que le Barça, même si ils ont un problème de but à régler, puisque les buts de Lewandowski et Ferran Torres pour l'instant en fait n'ont pas été
pour un numéro 9,
ouais. n'ont pas forcément été remplacés. Avec l'arrivée de Rodri, ça va être une amélioration qualitative absolument évidente. On sait ce que Hansi Flick va délivrer. Mais Mourinho, c'est la grande inconnue. Moi, j'aime globalement le recrutement. J'aime beaucoup Cucurella,
on peut citer Dumfries, Bernardo Silva
et Konaté. Je suis un peu moins convaincu. Mais c'est tellement spécifique le Real. Le Real, de toute façon, ça nous l'a encore prouvé avec Xabi Alonso. C'est-à-dire que c'est un club de joueurs. C'est pas un club d'entraîneurs. C'est un club de joueurs où ce qui fait la différence, c'est le management des individualités.
Non, mais sur la Liga, aujourd'hui, ce que fait la Liga, moi je te le dis, c'est monstrueux. Vous aviez pendant les vacances Javier Tebas. Mais c'est une légende, le type. Ce qu'il a réussi à faire du football espagnol, assainir les comptes de clubs qui étaient au bord de la faillite. Mmh. Toi, David, qui est dans ce domaine.
Un peu trop fort, mais on en reparlera.
Ouais, mais peu importe. Au moins, il a fait ce qu'il fallait. Mmh. C'est jamais trop fort. Il a assaini les comptes. Il a redonné une visibilité à ce championnat. Il a très bien vendu les droits. Et Dieu sait qu'on sait en France qu'avec les incompétents qui nous ont dirigés pendant trop longtemps, que c'est difficile. Mmh. Lui, il est en plus la voix. Il a pas hésité à se dresser contre la Super League, contre le Real, contre le Barça quand il fallait. Il défend son championnat et pas ses gros clubs. Il défend tout le monde. Il défend le football espagnol. Et le gars, c'est un phénomène. Et avec lui, la Liga, qui arrive à concurrencer une Première League, qui aujourd'hui a des moyens financiers dantesques et stratosphériques, mais qui sont, pour certains clubs, mal utilisé, très mal utilisé, parce que voilà, comme a dit un agent très célèbre de l'After, plus t'as d'argent dans le foot, plus tu fais de conneries. Et ça, c'est clair que en Première Ligue, ça se voit, et malheureusement, parce que j'aime bien le championnat, mais pour moi, je suis désolé, ça fait deux, trois ans, ça ne ressemble plus à rien. Ils ont des effectifs, c'est énorme. Chelsea, bien sûr, en tête de gondole. Heureusement qu'Arsenal a réussi quand même à relever la tête, mais ça, c'est ce que je pense de la Première Ligue en ce moment. Et par contre, la Liga, avec beaucoup moins de moyens, On va quand même rappeler que le football espagnol et la Liga en est quand même le plus grand pourvoyeur de talents, et champion olympique, et champion d'Europe, et champion du monde, et champion chez les féminines. Donc en fait, même les clubs féminins, je pense qu'ils tournent pas mal en Espagne et ça se développe. Donc en fait, c'est tout. Le football espagnol et la Liga sont aujourd'hui l'exemple à suivre devant l'Angleterre, qui a beaucoup trop d'argent pour être pris en exemple.
Rodri, qui devrait donc signer au FC Barcelone, ça n'avait pas été le Barça, on parlait du Real, donc a priori là, les Coquilles arrivent revenir en Liga. À Barcelone, c'est reconstitution de, alors de, pas de Ligue dissoute, puisqu'ils étaient ensemble il n'y a pas longtemps, mais gros noyau de la sélection espagnole. Hein. Il va rejoindre Cubarsí, Joan Garcia, Eric Garcia, Lamine Yamal, Olmo, Gavi, Pedri, tout ça.
Fermín López aussi, qui aura été
dans Fermín, qui est un joueur exceptionnel. Et donc, il y a cette ossature, tu le soulignais, des champions du monde. Et puis, il y a les plus grandes stars du football mondial, quand même. Kylian Mbappé, Bellingham, Vinicius. Je veux dire...
Yamal.
C'est vrai qu'on... Et Yamal, Rodri, évidemment. C'est vrai,
Pedri,
qu'on dit souvent que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Mais c'est pour ça qu'on voulait poser la question ce soir. Les meilleurs joueurs du monde, ils jouent en Liga.
Ouais, mais le problème de la Liga, en fait, c'est qu'il y a toujours pas eu
deux équipes et demie
d'apparition d'un troisième.
Je
suis désolé.
Le troisième. Qu'il n'y ait pas un quatrième, je veux bien, mais le troisième, il existe.
Mais moi, je suis très déçu de l'Atlético.
Le troisième, il existe.
Mais il existe à 15 points. Le problème, c'est qu'en moyenne, sur les Kevin,
ils ont un gros stade.
Mais on s'en fiche du gros stade. Sur les 5 dernières saisons, en moyenne, l'Atlético, c'est à plus de 10 points du titre. C'est une vérité. L'Atlético, tous les ans, ça dépense plus de 100 millions d'euros
c'est
en
Dortmund,
transfert.
C'est Dortmund derrière le Bayern.
Mais,
voilà.
mais le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'ils sont trop loin. Autant sur les cinq années d'avant, ils pouvaient aller concurrencer. Et moi, le souci, c'est que l'Atlético, à mon sens, sous-performe. Et il y a tout, et il y a les deux. Barça, Real. Après l'Atlético,
David, l'an dernier en Première Ligue, United termine 3e à 14 points du champion.
Oui, mais historiquement, en fait, alors, excusez-moi, historiquement, certes, sur les dernières années.
Historiquement, t'as souvent City qui met une tarte à tout le monde quand même.
Non,
sur les
tu mets pas une tarte à tout le monde.
Il y avait soit Liverpool, soit Arsenal, mais ils n'étaient pas très souvent trois à se battre pour le titre. Okay. C'est jusqu'aux 5 dernières journées.
Ok, d'accord, mais t'as quand même eu soit Liverpool, soit Arsenal. Avant, t'as eu Chelsea. Là, après, t'as quatrième équipe, c'est qui? C'est Villarreal. Villarreal qui a fini troisième.
Mais Villarreal qui. Avant, tu avais Séville.
Il y a eu Valence longtemps.
Il n'y a plus rien.
Économiquement, ils sont broyés.
Ils sont broyés pourquoi? Parce que l'économie du foot est broyée à part en Première Ligue.
C'est ce que je te dis. Donc,
mais
en fait,
ils arrivent quand même à survivre. Même dans les compétitions européennes, ils arrivent à survivre. Le Betis arrive souvent quand même.
Oui, en Europa League, ils sont souvent là. Ce que je veux dire, Kevin, en fait, si tu veux, c'est que pour que la Ligue. Pourquoi on aime la Première Ligue? Première Ligue aussi, parce qu'il y a une certaine compacité. Oui, mais parce que tu as des équipes comme Brentford, comme Brighton, qui sont excitantes et qui peuvent aller titiller les gros. Chelsea finit 10e. T'as pas un monde en Liga. Mais t'as pas un monde en Liga où Chelsea, ou l'Atlético, ou même Villarreal.
Rien de Valence.
Mais Valence,
ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent.
Donc ils ont fait n'importe quoi en Angleterre.
Ils ont pas fait n'importe quoi tout le temps. Là, ils ont mal travaillé.
Ça fait quand même 5-6 ans que Séville fait absolument n'importe quoi.
Mais ils ont pas fait n'importe quoi depuis 15 ans non
Valence,
plus.
De Valence, depuis que Peter Lim est actionnaire,
il y a eu une quasi faillite. Non, Valence.
Ils ont fait une quasi faillite. Ils ont même pas pu terminer la construction du stade.
Comme c'est arrivé aussi à Leicester.
Ce que je te dis, Kevin, ce que je te dis, c'est que il y a énormément d'équipes qui travaillent très bien. Mais si tu regardes le 5-6e projet, c'est qui? C'est l'Espagnol qui vient d'être acheté par le propriétaire de Burnley, en fait, si tu veux. Ça manque de densité. Ça manque énormément de densité.
Mais t'as quand même les deux plus grands clubs du monde.
Oui, aujourd'hui. Ok, c'est bien.
T'as les deux plus grands clubs du monde.
Oui.
Et t'as une Liga qui est quand même compétitive, avec un football, une qualité technique, une qualité offensive qui est quand même très au-dessus de la moyenne.
Mais là, on parle d'attractivité, en fait, si tu veux. On parle d'attractivité.
Mais l'attractivité aujourd'hui. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je peux pas te laisser dire ça parce que aujourd'hui, l'attractivité, c'est que l'oseille, en fait. Il y a rien d'autre que l'oseille dans le football aujourd'hui. La seule attractivité qu'a la Première Ligue aujourd'hui, c'est, je vais pas dire la seule, mais c'est quasi exclusivement l'oseille. Ils vont plus là-bas pour les ambiances et pour les mecs qui se lèvent sur un tac.
Alors l'oseille qui attire aussi la qualité des techniciens, parce que la plupart des meilleurs techniciens espagnols.
Mais c'est l'oseille.
Ok, d'accord, Kevin, on est d'accord.
Mais si tu leur donnes le même oseille, ils rentrent tous en Espagne.
Kevin, si juste le débat, c'est de dire que la Première Ligue c'est mieux parce qu'il y a plus d'oseille.
Ah bah je pense que entre la Première Ligue et la Liga. la seule diff, c'est l'oseille. Ça, je te le dis.
Raoula, si tu lui donnes autant d'argent qu'à Liverpool, il va dans un 3, 4, 5e club espagnol, tu
mais
penses?
Bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr. Ouais. Mais
vas-y, allez avant. Benitez, par exemple.
Bah, vois, bien sûr. À l'époque, Benitez, il était à Valence.
Il y allait avant.
Mais moi, je te le dis, je suis un grand défenseur de la première ligue. Ils ont très bien travaillé. Ils aident la Championship. Ils aident la Ligue 1, la Ligue 2. J'ai appris avec Wrexham que t'arrives en Ligue 2. T'as, en 4e division anglaise, t'as 1 million d'euros de la part de la première ligue qui te permettent de développer ton club. Il n'y a pas de problème. Ils ont tout vu avant tout le monde. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire n'importe quoi dans pas mal de clubs, hein, Tottenham par exemple, et donc Everton, etc. Et donc, s'ils n'avaient pas leur afflux d'oseille, je peux te dire que les faillites, ils en auraient quelques-unes aussi.
Non, mais là, on est d'accord. Ah, mais Kevin, ce que j'essaie de te dire, en fait, si tu veux, c'est que.
Le rapport qualité-prix est meilleur en Espagne.
Non, voilà, mais ça, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'argent dépensé, par exemple, de l'Atlético, moi, j'aurais aimé que l'Atlético se rapproche sur la durée plus.
Ouais, mais c'est dur.
Ils sont
monstrueux.
Je te dis pas de gagner des titres, je te dis de ne pas être à 15 points.
Ils ont gagné un titre quand même sur les 10 dernières années.
Il y a plus de 5 ans, de ne pas être à moins de 2 points de moyenne.
Mais en Coupe d'Europe, ils sont toujours présents.
Oui, ils sont toujours présents.
Ah oui,
quand tu fais Junal Alvarez, quand tu fais Sorloth, quand tu fais Conor Gallagher, quand tu fais Robin Lenormand. Non, mais c'est des sommes quand tu fais Alex Baena, quand tu fais des transferts à 35, 40 millions, quand tu fais David Anko, qui quand tu sors du Feyenoord, c'est quand même.
Moi, je pense qu'ils ont surtout un problème avec leur entraîneur.
Oui,
qui est une légende, mais qui à un moment.
C'est un club qui est valorisé plus d'un milliard, Kevin. Ils ont Apollo qui a racheté le club en partie à Ares. Donc en fait, c'est un club qui est soutenu. Et moi, ce qui manque, et je pense que les règles financières de Javier Tebas sont excellentes pour 80% des clubs, mais ça n'aide pas à l'attractivité de la Liga. Regarde le Fenway Sports Group, qui détient Liverpool, peut-être plus pour longtemps. Ils avaient essayé de racheter Retafe, et ils ont reculé. Pourquoi ? Parce que ces règles, quelque part, ralentissent l'investissement.
Je ne serais jamais d'accord avec toi. Alors, pour moi, la régulation n'est jamais un problème.
Non, mais en fait, tu peux.
Surtout pas dans le foot.
Non, mais tu pourrais rappeler simplement à celles et ceux qui.
C'est un salarié cap. C'est un salarié cap.
Qu'est-ce qu'il a fait, Tebas, pour sauver les finances des clubs?
Pour sauver les finances des clubs, il a fait un salarié cap ou un squad cost ratio comme l'UEFA a déguisé. C'est-à-dire que tu ne peux dépenser qu'une partie de tes revenus prévisionnels en dépenses joueurs. Voilà. Il a donc limité les dépenses joueurs aux revenus.
Une sorte de fair play financier de l'UEFA version espagnole.
Ouais, exactement, ça, c'est la masse salariale ne peut représenter qu'un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires.
Exactement. Enfin, pas de tes dépenses joueurs.
Tes dépenses
joueurs peuvent représenter un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires. Voilà. De tes revenus.
Mais c'est ce qu'ils ont fait en France pour la Ligue 3, par exemple.
C'est ce
qu'ils ont tenté de faire.
Mais après, encore une fois, ils l'ont un peu assoupli. Mais le fait est, en fait, si tu veux que quand t'achètes un club, Simon, il faut que t'amorces la pompe. Tu peux pas en fait te permettre, surtout des clubs de Liga où t'as des revenus relativement limités, il faut que tu dépenses en fait si tu veux avant d'accroître tes revenus. Et je pense, mais c'est très bien.
Alors il faut bien travailler, ça prend un peu plus de temps.
Ouais, mais ça prend un peu plus de temps. Ok, d'accord. Mais
le problème c'est qu'aujourd'hui les gens veulent acheter des clubs de foot comme ils achètent des voitures de luxe avec les meilleures options. Ben non, des fois, il faut travailler un peu. Voilà, faut aller voir le mécano pour construire ta voiture. Ça va mettre un peu plus de temps, mais ça permet peut-être à ton football d'être un peu plus sain.
On va accueillir José dans Génération After. José, j'ai l'impression.
José.
Non.
Oui, José.
Supporter du Sporting Rijon.
Ah. Alors moi, c'est ce que j'expliquais.
David Villa, qui vient de du Sporting Rijon.
Non. Mon voisin, c'est Luis Enrique, du quartier de Pumaring. Et moi, je suis du quartier de Contreras. On a le même âge. On s'est jamais croisés. Luis Enrique, c'est un vrai Gijonais, un vrai Asturiano. Souvent, on dit les Catalans, etc. C'est une vraie tête de mule Asturiano. David Villa, ils ont un point commun. Ils sont tous les deux formés à Gijon. Ils deviennent professionnels à Gijon. Un est vendu à Saragosse, Villa. L'autre est vendu au Real Madrid, c'est Luis Enrique. Gijon, on s'en moque souvent. Hein. C'est pas Gijon, c'est pas Valladolid, mais c'est un des plus grands centres de formation en Espagne. Ils sont un peu dans le dur en ce moment. Ils ont été vendus à des Mexicains. Mais le Real Sporting de Gijón, c'est plein de super joueurs, etc., etc. Puis quand j'étais gamin, le Real Madrid est devenu mon Saint-Étienne hein, pour les Français, c'est-à-dire que l'équipe d'Espagne était un peu nulle. Donc je m'étais trouvé une équipe d'Espagne de substitution et c'était devenu le Real Madrid. Donc je suis Gijonais pendant Real.
Bon, sur le débat qui nous animait, José, ton avis sur le boulot qui a été fait pour assainir les comptes, est-ce que pour toi la Liga est le meilleur championnat d'Europe?
Alors si on parle foot, ouais, Et si on parle foot, oui, je suis d'accord avec Kevin. Tebas, il s'est quand même pris à un moment donné, bras droit, il s'est pris Florentino Pérez, qui était très énervé contre le Barça, l'affaire, souvenez-vous, l'affaire Negreira, ouais. et le Real, qui est quand même le club le plus riche au monde. Et d'un autre côté, on avait le Barça, qui économiquement était à la ruche, etc. Et donc, il a quand même soutenu, ce qui a énervé beaucoup les supporters de Real, il a quand même soutenu le Barça, parce qu'il savait qu'il avait besoin du Barça et du Real. Donc, il a contré un peu Pérez, il a retenu le Barça, et le Barça là, est en train de repartir. Mais ce que je voudrais dire, on n'oublie pas qu'à Bilbao, il y a des champions du monde. On n'oublie pas qu'à Villarreal, Real Sociedad, il y a des champions du monde. Et je trouve qu'on résume trop le foot espagnol au Barça et au Real. Il y a l'Atlético Madrid qui est là, il y a Villarreal, etc. C'est des vraies bonnes équipes. Et si vous regardez, hein, parce que souvent on dit ouais le tiki-taka, l'équipe d'Espagne, c'est le Barça, etc. Il n'y a jamais eu aussi peu de joueurs du Barça ces derniers temps. Un mec comme Pedri n'est plus titulaire en quart de finale 2024 à l'Euro, n'est plus titulaire quart de finale Coupe du Monde, etc., etc. Donc on a un football espagnol qui s'est déporté un peu sur d'autres villes. Et moi je trouve qu'il n'y a même pas besoin que je passe à l'antenne pour que visuellement, que les amateurs de foot quand même prennent plus de pied pour moi, hein, regarder la Liga en ce moment.
Ça dépend des matchs. Après l'histoire, José, c'est pas forcément de prendre du plaisir à regarder les matchs, parce qu'en première ligue il y a tellement de bons joueurs qu'il y a une intensité, il y a une technique, il y a les meilleurs quand même joueurs du monde. Pas tous les meilleurs joueurs du monde, mais on va dire que à part le Barça et le Real, bon, et l'Atlético, le Bayern, après derrière, il y a quand même parmi les meilleurs, et le PSG, il y a quand même parmi les meilleurs joueurs du monde dans tout ce qui se fait. Allez, deuxième, troisième, quatrième chapeau, il y a une densité notamment dans les équipes, même à Bournemouth, t'as des internationaux partout. Bon, bref, t'as vraiment.
Moi, j'arrive pas à kiffer, moi, avec les Bournemouth. Ça, je trouve que
après, c'est les joueurs.
Bournemouth
après.
Se dira, voilà, il est pas mal.
C'était pas mal, mais.
Là où il faut donner du crédit à la Liga, alors certes, c'est pas des clubs qui se mêlent à la lutte pour le titre, mais si tu tombes contre sur un Las Palmas Retafé, ça joue au foot, quoi.
Ouais, mais le
problème... et même si c'est pas des équipes qui peuvent aller dans la durée.
Sur un Brighton Bournemouth, ça joue au foot aussi.
Il y aura plus d'argent, c'est vrai. Non, mais après, il y a aussi un problème de récit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, José. Il y a aussi un problème de récit. Je trouve que la Liga, notamment en France, historiquement, est pas super bien racontée. Là où la Première Ligue est peut-être un peu mieux racontée. Et médiatiquement, est peut-être je sais qu'il y a des excellents journalistes qui suivent la Liga, Tracy Rodrigo, Anna Caro notamment, Edgar Grollo chez nous. Mais il y a aussi un problème de récit, de mise en valeur.
Eh ben, en parlant de récit, tu viens de citer la Spalmas. C'est les inventeurs du tiki-taka. Voilà, le tiki-taka, c'est pas le Barça, le tiki-taka, c'est la Spalmas. C'est-à-dire que dans les villes du Sud, Tenerife, la Spalmas, etc. Cadiz a eu dans les années 80, mais c'était un truc de fou. Il avait un petit meneur de jeu, mais franchement, on le mettait à l'époque, je suis peut-être un petit peu vieux, j'ai 57 ans, on le mettait au niveau de Maradona, je me rappelle plus de son nom, à l'époque, Cadiz, la Spalmas, etc., totalement inconnu, invisibilisé en France, ça jouait super bien au ballon. Donc effectivement, il y a peut-être un problème de récits. Moi, j'ai rien contre Edgar. Hein. Il fait son Erasmus en Espagne.
Non, t'es dur là.
Non, mais.
Excellent, non. Edgar Grollo, notre correspondant à Madrid.
Il prend une super
ouverture. José.
Excellent, mais un petit peu anti-Réal. Je vais pas rentrer là-dedans.
Ça y est. On sait tous qu'Edgar, il est pour l'Atlético. Non, je plaisante.
On essaie toujours.
Je ne sais pas pour qui il est, mais je me souviens.
Il est pour personne.
Mais José, surtout, on s'en fiche. C'est un excellent journaliste et il essaie d'être le plus
honnête possible. Il est pour personne.
Et il raconte très, très bien le football espagnol.
Je ne dis pas ça. Je ne dis pas.
Mais on n'est pas là pour la parler de notre confrère José.
C'est Magico González, le meneur de jeu de Cadiz.
Non. Je m'excuse par rapport à Edgar. Je voulais pas que j'étais plus sur le côté un peu. Il y avait un match en Ligue des Champions où le Real, l'année dernière, a aligné six mecs de la formation.
La Fabrica.
Je crois que c'était à Benfica. Il y a six mecs de la formation quand même.
Et d'ailleurs, Marseille s'en rappelle.
Edgar prend la parole et il dit ce qu'il avait retenu du match. c'était Courtois sauve le Real.
Ah bon, il n'est pas là pour faire le procès d'Edgar non plus. Enfin, c'est...
Non, mais je sais.
Bon, José, oui, on va rester de toute façon sur cette ligue.
Là, José, tu pars dans une des dérives du football espagnol. José, tu pars dans une des dérives du football espagnol qui est le clubisme. Là, c'est pas ce qu'on préfère.
Exactement. Non, on sait tous que Daniel est pro-PSG. Un journaliste sportif, moi qui suis espagnol, il y a AS, Marca, Mundo Deportivo, et Valence, etc. Tout le monde a ses jours.
Et AS et Marca sont pro-Real, et Mundo et Sport sont pro-Barça, et c'est la culture du foot en Espagne. Merci beaucoup, José, d'être passé dans l'after. C'est vrai qu'on est un petit peu moins habitués, nous, à dire pour quel club on roule. Edgar Grollo, immense journaliste RMC.
En plus, il prend une ampleur. Ouais, il est vraiment
un petit canari qui a déployé ses ailes. Tenez, la Liga, la première journée, ça se poursuit. La Corogne, qui mène actuellement 1-0 sur sa pelouse face à El
Aubameyang.
La Corogne, c'est pareil, hein, grande Aubameyang, 21e minute. Pierre-Emerick Aubameyang qui ouvre le score au Riazor. On joue au Riazor. Ça a été un des immenses clubs également, toute petite ville.
Roretta.
Oh là là, les Valerone, Diego Tristan.
Oh bah, Roy Mackay.
Roy Mackay.
Jamina,
merci.
Nordin Naïbet. Voilà, Fran. Immense. Oh là 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 là.
La Corogne, donc, qui mène 1-0 face à Elche. On a Fred qui nous a appelé également au 32-16.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola!
Voilà, c'était court, mais il tenait à nous diffuser ce message. J'avais reconnu, évidemment, Fred Herbel, 21h43. La Liga, ça se termine jeudi, hein, la première journée. Étonnant, quand même, cette petite scénarisation de l'ouverture du championnat espagnol. Nous, on termine à 22h, les gars. David Guzman, Kevin Diaz, il nous reste un gros quart d'heure pour parler.
Il est encore là, ton ami, sur le chat ou pas?
Mon ami Michel, ouais. Ah, je sais pas. Non, je crois que Michel il a coupé la radio. Il reviendra pour l'after autour de Karine Galli. On l'avait oublié, Michel. Sacré Michou. Nous, dans un instant, on va entamer un débat qui ne va cesser d'animer cette saison. La fin de carrière de Messi et Ronaldo, elle approche. Alors, qui est le GOAT?
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Simon Dutin.
La dernière ligne droite de Génération After en compagnie de Kevin Diaz et David Guzman avant de céder la place à Karim Galli pour l'After jusqu'à minuit. On est à 4 jours de la reprise de la saison de Ligue 1 OM Strasbourg, 20h45 vendredi au Stade Vélodrome. Et tout le reste de cette journée dont vous ne manquerez pas une miette sur l'antenne de RMC. Si vous avez raté le début de l'émission, on a tiré quelques enseignements. On a tenté en tout cas de le faire du trophée des champions hier, la victoire lensoise. Stovin peut-il, mérite-t-il un retour en équipe de France? Le modèle lensois, c'est l'exemple à suivre. C'était l'avis de Kevin. Et puis, pas d'inquiétude pour ce PSG sur la même tonalité qu'un Luis Enrique qui était satisfait du contenu malgré la défaite. Vous pouvez aller podcaster tout ça. Attendez quand même un petit peu la fin du direct. On a appris hier, les gars, grâce à nos confrères américains du très sérieux The Athletic qui ont sorti l'info, que Cristiano Ronaldo disputait sûrement sa dernière saison. Alors avant d'ouvrir un petit débat sur le GOAT avec Messi qui lui aussi a parlé de retraite cette semaine, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous y attendiez? Parce que si je vous pose la question, c'est que au cours de la dernière Coupe du Monde, il a dit c'est ma dernière Coupe du Monde, mais bon, il sous-entendait qu'il pourrait continuer un petit peu déjà avec le Portugal. Donc, est-ce que tu as été surpris, Kevin?
Non, mais pour moi, je suis pas surpris, mais honnêtement, je pensais qu'il allait peut-être continuer encore 2-3 ans. Hein.
Voilà, c'est plus
simple. Je pensais qu'il allait aller plus loin possible, peut-être 44 ans. Je crois que Tom Brady a été, je crois, jusqu'à 44 ans dans le football américain. Donc, je croyais que Cristiano Ronaldo allait vouloir faire pareil. Maintenant, écoute, pour moi, sa carrière, elle est terminée depuis un moment. Hein. En soi, quand tu vas en Arabie Saoudite, bon, pourquoi pas, mais.
Ah, c'est pas son avis, lui, c'est pour ça, hein. Non,
je respecte son avis, mais
il regarde les matchs.
Non, justement non.
C'est la question qu'il a posée un journaliste.
Et ça m'intéresse pas, malheureusement pour lui ou heureusement pour moi, mais en tout cas moi ça m'intéresse pas. Donc voilà. À partir du moment où tu passes dans une autre atmosphère, mais bon, je regarde pas beaucoup plus les matchs de. Pourtant j'aime bien les États-Unis, mais je regarde
de
pas beaucoup
Miami
plus
non plus.
Les matchs de l'Inter Miami et de Messi. Donc voilà. Et que Cristiano Ronaldo arrête sa carrière maintenant, c'est pas un truc qui va me faire quelque chose, parce que pour moi. Il a arrêté il y a un moment déjà et il aurait dû l'arrêter été avant en sélection du Portugal, c'est pas faute de l'avoir demandé.
Moi, je suis pas du tout joueuriste, donc avec tout le respect, en fait, l'immense respect même.
Tu entends par le joueurisme.
Non, mais en fait, si tu veux, enfin, moi, je m'attache.
C'est un truc
pas...
que j'ai inventé, ça.
C'est ton concept.
Ouais. Dans l'affaire. Ah,
c'est un... D'accord. Oh là là.
Ouais, mais c'est vrai.
T'es fort, comme tu l'as breveté. Donc je veux que je te dois pas de l'argent, en fait, quand je l'utilise.
Moi, je suis dans le partage. Oui, dans le partage, dans l'after.
50-50.
On fait partager. Non,
pas croquer les copains. On verra si Paul Vecchio
a l'air. Non. Bah, enfin, un peu à l'instar de Kevin. Franchement, moi, c'est vrai que tous les joueurs, en fait, qui finissent leur carrière dans les championnats exotiques, comme je suis pas joueuriste, j'ai pas du tout tendance à les suivre où ils vont. Donc,
nous, moi, atteindre la barre des 1000 buts, quand même, rassurez-moi. Je pense qu'il va attendre d'atteindre la barre.
Il y en a qui pensent qu'il veut atteindre la barre des 1000 buts, d'autres qui disaient qu'il aimerait faire comme LeBron James et jouer avec son fils. Bon,
moi c'est plus l'après carrière en fait. Après carrière que j'attends. J'attends de voir en fait si ce genre de joueur.
Tu n'es pas un joueuriste, mais tu es un dirigeantiste.
Exactement. Hein. Ouais. Et ben exactement. Moi ce qui m'intéresse Messi à l'Inter Miami, c'est est-ce que Messi va être propriétaire de franchise par exemple en MLS ou à quel point Cristiano Ronaldo va s'investir dans le football après la fin de sa carrière. Moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus qu'une fin de carrière un peu en pente douce et parfois assez triste, notamment avec les prestations en équipe nationale. Moi c'est l'après qui m'intéresse, le maintenant je trouve que ça a trop duré.
Alors Lionel Messi a eu la douleur de perdre son papa il y a quelques jours, et donc lui aussi a sous-entendu, enfin il a même dit qu'il savait pas s'il allait vouloir continuer à jouer longtemps sans son père qui était également son agent et son conseiller. Intéressant, comment vous voyez la suite, l'après-carrière de ces deux-là, est-ce que vous pensez qu'ils vont se suivre aussi, ou est-ce que vous les voyez dans des rôles différents?
Mais autant ça m'intéresse de suivre l'après-carrière d'un Cesc Fabregas, maintenant d'un Arteta, autant ce genre de joueurs-là, moi, ils m'ont fait tellement rêver comme joueur de foot. Je les imagine pas autre chose que joueur de foot. Comme j'imaginais pas du tout Zidane entraîneur, par exemple. Je pensais pas que Zidane avait la personnalité ou forcément l'envie d'être entraîneur. Thierry Henry pareil. Alors Thierry Henry, on a vu que comme entraîneur,
sélectionneur
c'était mieux, mais comme entraîneur, il avait tellement d'exigences et puis tellement de qualités qu'il avait un peu de mal à se mettre à la place des joueurs qui ont moins de talent. Mais tu vois, c'est un peu comme Maradona, entraîneur, pourquoi?
Compliqué. Pour les impôts, Maradona, c'était souvent ça. Ah ouais. À part sélectionneur, ouais, c'était.
Ah ouais.
C'est quoi, il y avait besoin
de l'argent. Voilà, pour moi, alors, il y a eu Johan Cruyff quand même, mais là, c'est un autre personnage, c'est une autre époque, pour le coup, qui a révolutionné le jeu aussi comme entraîneur et qui a révolutionné tout un club et presque même derrière un pays qui a suivi avec l'Espagne et le Barça. Mais sinon, voilà, moi, ce genre de grand joueur, Van Basten a essayé.
Van Basten, ça pas mal, ils sont nombreux hein, à avoir échoué.
Mais c'est un autre métier.
De l'autre côté.
Surtout effet, aujourd'hui, ouais. Je pense que le métier d'entraîneur est de plus en plus un métier à part entière, avec tout ce qui est data.
C'est un sacerdoce. C'est des sacrifices. C'est un vrai sacerdoce.
Et puis c'est les data, et puis c'est aujourd'hui quand t'es un entraîneur, tu es un dirigeant d'une entreprise. Alors eux c'est des dirigeants déjà d'entreprise avec leur propre marque et leur propre nom, mais une entreprise de je sais pas moi 30-40 salariés qui sont tes adjoints, les analyses vidéo, les prépas athlétiques, la préparation mentale, la préparation physique, la préparation nutritionnelle, enfin bref. Donc aujourd'hui quand t'es un entraîneur, ce que je dis c'est que pour moi il y aura de moins en moins d'anciens grands joueurs qui seront entraîneurs, parce qu'aujourd'hui déjà ils gagnent tellement d'oseille que bon.
Pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est soit ils ont tellement gagné d'argent qu'ils vont complètement se couper du monde du foot en disant de toute façon, moi, j'ai pas un besoin matériel de m'impliquer. Mais soit ils vont détenir un club, construire quelque chose, construire un projet. Moi, Mbappé, par exemple, on l'a beaucoup critiqué pour son investissement à Caen. Peut-être que c'est un peu trop tôt dans sa carrière, mais moi, je trouve ça hyper intéressant.
Finalement, c'est vrai que c'est plutôt intéressant.
Moi, je trouve ça hyper intéressant.
Avec le choix Mathieu Bodmer,
avec, je crois que c'est Nasser Larguet aussi qui est.
En tout cas, ils ont payé, et Gaël Clichy. En tout cas, ils ont payé pour voir.
Ils ont payé pour voir. Oui. Moi, je trouve ça hyper intéressant.
Mais moi, je verrais bien Ronaldo, par contre, racheter, par exemple, le Sporting.
Ça, hyper intéressant.
Mais sans vous parler des difficultés à passer du statut de grand joueur à grand entraîneur, en effet, Cruyff c'est le contre-exemple. Beckenbauer a été champion du monde avec l'Allemagne, comme sélectionneur, et Guardiola. Mais Guardiola a pas eu la carrière de joueur d'un Johan Cruyff ou voilà quand même. C'était un très très fort joueur, mais vous. Vous pensez que, on le voit même sans que ce soit des légendes, mais c'est quand même d'immenses, ils ont été d'immenses joueurs. Alors Lampard, ça va un petit peu mieux, mais ça a été très compliqué au début. Steven Gerrard, Andrea Pirlo, c'est des mecs, a priori, Wayne Rooney, on pouvait mais dire que c'était des avec leur talent, ce qu'ils nous avaient montré, qu'ils avaient quelque
mais
chose
Messi
à faire.
Ne...
Et on voit, et même dans une autre dimension, un Gattuso, tu vois, qui arrivait à cimenter Messi... la grande équipe du Milan. Bon, c'est des
mais
mecs.
Mais il y a quelque chose, en fait, Messi et Cristiano Ronaldo ne se soucient pas des autres. Et en fait, quand t'es entraîneur, tu t'abandonnes complètement, tu n'existes plus. Tu n'existes que par ton groupe. Et ça, Johan Cruyff.
Ça dépend des gens.
Non, mais Johan Cruyff a la grande différence, c'est que quelqu'un qui a existé par le collectif de Rinus Michels notamment, donc qui était habitué aussi à être le rouage peut-être le plus talentueux, mais un rouage hyper important.
Après, Messi, il a quand même existé avec le collectif du Barça.
Oui, mais tu sens que c'est quelqu'un, en fait, si tu veux, qui n'a pas un énorme sens du collectif, qui est très clanique dans ses fréquentations. C'est pas un rassembleur, Messi. C'est quelqu'un, il y avait toujours la République Messi au sein, en fait, du FC Barcelone. Et surtout, c'est des gens, alors pourtant je suis pourtant à l'affût d'énormément d'interviews, ils ont pas énormément de choses à dire du foot en fait. Sincèrement, est-ce que tu as lu les interviews de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan? C'est une interview plus showbiz ou règlement de compte.
C'est des gens pour qui le foot était tellement facile qu'ils ont même pas besoin de l'expliquer en fait. C'est comme les génies, difficile d'expliquer un truc qui pour eux est simple.
Tu penses pas alors je pense plus à un Cristiano Ronaldo. Tu penses pas qu'il il peut y avoir une envie de dire voilà, de dire moi j'ai été le GOAT parce qu'il est persuadé de l'être, et ben je vais transmettre, je vais être le plus grand entraîneur.
À la Platini sélectionneur, tu vois un peu à la
Platini, il avait pas envie, je pense.
Oui, après Platini, à chaque fois qu'il te dit quelque chose, c'est toujours des accidents. On est venu le chercher. Enfin,
oui, mais encore une fois, il était sélectionneur, Platini. Il a pas été entraîneur au quotidien.
Je vois pas Huddersfield pour les faire monter de Ligue 1 en Championship, Cristiano Ronaldo, ça c'est sûr. Mais moi, franchement, je serais très surpris qu'il ait qu'il accepte ce sacerdoce du métier d'entraîneur moderne. À très haut niveau, hein. Je ne te parle pas de prendre un Al Ahly ou un Al Nassr, enfin, vraiment très haut niveau.
Entraîneur-joueur, se faire rentrer en jeu.
Comme Glenn à l'époque.
Bien sûr.
Ouais.
Ou c'est Viali qui l'avait fait.
Ouais, Viali à Chelsea, Zola aussi.
Bon, et vous leur prédisez quoi alors comme après-carrière, une retraite loin des médias? Non, on ne va pas les laisser.
Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Vraiment. Je pense que Messi, il va pas rester dans le foot. Je le vois pas forcément rester dans le foot, au moins coupé pendant quelques années. Ou alors acheter un club, c'est possible.
Une franchise en MLS, une franchise d'expansion. Je sais même pas si dans son contrat, il a pas une clause comme Beckham l'avait à l'époque, ou s'il y a une expansion, il a un droit de regard prioritaire sur chaque expansion de la MLS. Mais vraiment, c'est une bonne question. Moi, je les vois pas forcément être impliqué individuellement, directement, quotidiennement dans le football. Et je l'espère même pas, en fait. Je vais te dire quelque chose. Moi, Messi, Cristiano Ronaldo, au quotidien.
Vous avez pas envie que ça abîme la légende?
Non, mais même je vois vraiment pas, en fait, si tu veux, ce qu'il pourrait dire du football. J'ai pas, comme dirait quelqu'un qui vient régulièrement ici, j'ai pas la vision, là, de Messi, Cristiano Ronaldo.
Non plus. Toi, Kevin, tu vois pas Messi rester dans le foot, mais Cristiano, un super agent, un super entraîneur.
Autant Mbappé a beau dire que lui se tiendra loin en fait du milieu du football, je suis pas forcément complètement convaincu. Mais autant non, alors là je suis pas. Ouais.
Moi non plus. Je pense pas qu'ils sont. Mais bon, on verra.
Est-ce que vous pensez alors qu'il est temps de dire stop, to call it a career comme disent les Américains? Est-ce que vous pensez que il est temps de s'arrêter ou vous seriez déçu si les deux s'arrêtaient?
Non, mais moi,
est-ce que vous pensez qu'il faut qu'ils s'arrêtent la même saison, il faut qu'ils arrêtent en même temps?
Non, mais ils ont pas le même âge, donc ils s'arrêteront à l'âge qu'ils veulent. Mais honnêtement, non, moi je pense que Messi va continuer encore un peu. Il est tellement fan de ce jeu. On l'a vu à la Coupe du Monde. Là, il joue avec ses potes au soleil. Ils ont fait un stade autour de lui. Ils ont fait un club autour de lui. Enfin, là, il existait un petit peu avant, mais voilà. Et puis Ronaldo, moi je pense qu'il va vouloir atteindre la barre des 1000 buts. Et puis après, va peut-être falloir accrocher les crampons.
Moi, ils sont sortis de mon quotidien footballistique. Vraiment. Ouais. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment, c'était un magnifique
rappel. Pendant la Coupe du Monde, Messi, il est sorti de ton quotidien?
Ah non, mais c'est ce que j'allais dire. C'était un magnifique rappel pendant la Coupe du Monde que, personnellement, j'attendais pas du tout. Mais ils sont vraiment, et pourtant, je mange du foot, mais ils sont complètement sortis de mon quotidien footballistique. Donc, qu'ils arrêtent ou qu'ils arrêtent pas, franchement, moi, ça va pas changer mes habitudes.
Moi non plus.
Vous ne regardez ni la Saudi League ni la MLS.
Même pas les highlights. C'est pourtant pareil. Je mange beaucoup d'highlights pour me tenir informé.
Pourtant, la MLS a fait de sacrés progrès. Hein. Il y a des qualités d'image là.
En fait, à chaque fois que je vais sur Flashcore regarder les résultats, les buteurs, je me dis tiens, je devrais quand même de temps en temps regarder. En fait, je fais jamais.
Bon, Kevin, merci pour ton expertise et ta sagesse footballistique. Ouais. Signé Virginie, fidèle auditrice de
l'After. Merci Virginie.
Sagesse footballistique. Alors ça.
J'aime bien cette expression. Ça me définit très bien.
Bon, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Moi, j'arrive à la fin de ma petite tournée d'été. C'était ma dernière cet été avant la rentrée. Je vous remercie, les gars. Je remercie pour leur confiance, celle qui me témoigne. Nicolas Jamin, Karine Galli, Jimmy Brown, nos producteurs, excellents. Maxime Abolin, qui était là ce soir. Kylian Véroff, Flavien Zolkowski, Théo Rodriguez, Jesse Liligro. Les chefs, évidemment, faut jamais les oublier. Pierre Ten, Emmanuel Renard, Karim Nedjari. Et le big boss, évidemment, Gilbert Bribois. Alors voilà, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais rendre la place au taulier. Gilbert reprend demain, je crois. Hein.
C'est ça.
Il est de retour, évidemment, le réfé. Alors s'il vous plaît, je vous demande un truc. Pendant mon absence, n'oubliez surtout pas que...
On se moque de Simon Dutin, mais il a souvent raison au bout.
Voilà. Et c'est quand même au bout un sacré emmerdeur qu'il dit. Donc ça valait le coup de le rappeler. Merci beaucoup, messieurs.
Salut,
dans
Simon.
Un instant.
Salut à tous.
C'est l'after. Karine Galli en direct jusqu'à minuit. Michel va pouvoir allumer la radio. Et vous, les auditrices et les auditeurs, vous restez bien évidemment sur RMC. Le foot, le sport, le débat, l'info ne s'arrête jamais. Salut.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.